Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission sur Antithèse Radio, donc sur un instant santé, l'instant santé numéro je sais plus parce que 11. Genre on en fait trop.
12.
12, 11, 10, 9.
12.
Bah voilà, on est sur le 12. Du coup, on est en présence de Madame Audin. Comment allez-vous, Madame ?
Bien. Pour cette nouvelle année, on repart.
On repart pour un instant santé, il faut se tenir en forme, faut être là, faut être présent. Et bien sûr, avec nous, on a Chang.
Bonjour.
Comment il va ?
Toujours prêt.
Aujourd'hui, madame, et quel est le... Ah oui, j'ai oublié, désolé. Ouais.
Il en manque un.
Oui, j'ai oublié. Donc, bien sûr, on a notre ingé qui va participer à l'émission parce qu'il aime ce sujet. Donc, voilà, il veut vraiment participer à...
Nouvelle résolution.
Voilà, nouvelle résolution. Il est dans l'instant santé. Et comment tu vas ?
Ça va. Et toi, ça va ?
Ça va, tranquille. Cool. Donc, madame, quel est le sujet de cette émission aujourd'hui que vous nous apportez ?
Alors, on va attaquer un chapitre qui va nous prendre au moins deux émissions, qui concerne la santé mentale et les jeunes.
Tintin. C'est-à-dire la santé mentale et les jeunes. Parce que la santé mentale, peut-être, on aurait pu partir sur deux, trois petits problèmes. Mais pourquoi les jeunes avec ?
Pourquoi les jeunes ? Alors, à votre avis, pourquoi chez les jeunes, on parlerait de santé mentale ?
Parce que c'est dur.
Parce que c'est dur d'être jeune, bah ouais, tout à fait. Alors, une fois n'est pas coutume, j'avais envie de commencer par le quiz. Histoire de voir où est-ce que vous en êtes, quelles sont vos représentations sur... Ouais, je sens que là, aujourd'hui, on est tous en forme. Là, c'est janvier, on digère les galettes et...
Et vous savez un truc ?
Et le repas du fin.
Je vais vous apprendre quelque chose. Alors, jeudi... c'était lundi. Lundi, y a des scientifiques qui ont déterminé que c'était le Blue Monday.
Janvier, c'est le mois de la déprime.
Ouais, c'est juste vraiment ce jour-là, parce qu'en fait, c'est pas la fin du mois, c'est même pas la fin de l'année, c'est juste après les fêtes, et du coup, c'est le jour où...
On est à la fin des fêtes, on a eu nos payes en général plutôt en décembre, donc on sent qu'on galère, parce que on sent que c'est la fin du mois, mais en fait, non, c'est que le milieu, et c'est la dèche. Ah, c'est vrai.
Ça. Je me suis dit la même chose, pourtant je reçois pas encore de salaire.
Coup dur.
Et pourtant, on était rentrés que depuis deux semaines, mince, qu'est-ce qu'on fait ?
J'avais juste reçu le bulletin. C'est pas le même.
Bon, allez, histoire de voir où vous en êtes, on va commencer par le quiz, histoire de se réveiller aussi un petit peu. Vous êtes prêts ?
Oui.
Alors, première question. La santé mentale, petit A, ne concerne que les personnes de plus de 60 ans. Petit B, ne concerne que ceux qui sont atteints de maladies psychiatriques. Petit C, concerne tous les êtres humains, quel que soit leur âge.
Tout le monde.
La dernière.
Tout le monde logique. Tout le monde est d'accord ?
Ah
oui. Bon, effectivement, ça concerne tout le monde, quel que soit leur âge. Même si pendant longtemps, on a pensé qu'être en bonne santé et en bonne santé mentale, ça se définissait comme être ne pas malade du tout. Mais ça ne suffit pas. Donc maintenant, l'OMS, maintenant vous savez ce que c'est.
On fait oui, mais on fait genre...
Yes ! Voilà, il y en avait un qui suivait. L'Organisation Mondiale de la Santé a donné une définition donc un peu plus exigeante sur la santé. Donc la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Et elle a rajouté un petit peu après encore parce que je trouvais que c'était pas suffisant. Une bonne santé mentale permet aux individus de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d'accomplir un travail productif et de contribuer à la vie de leur communauté. Donc en gros, une bonne santé mentale, c'est pouvoir s'épanouir de manière globale. Donc des amis, un travail qui nous intéresse... Peut-être s'engager dans une association, il y en a autour de la table qui s'engagent dans des associations du lycée, discuter avec ceux qui nous entourent, des projets, des loisirs et tout ça. Ok ?
Oui.
Alors, question numéro 2. La schizophrénie, c'est avoir deux personnalités dans le même corps. Vrai ou faux ?
Alors, la schizophrénie, moi je dis que c'est faux. On a entendu ce cliché d'un dédoublement de la personnalité, mais en fait, il faut passer au-delà de ces clichés car la schizophrénie c'est vraiment autre chose.
C'est déjà pas mal franchement parce que c'est vrai qu'on a quand même une représentation de la schizophrénie en gros 2, 3, 4 personnalités dans un corps, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. C'est une psychose, donc une maladie psychiatrique, un trouble qui aboutit en fait à une désorganisation de la personnalité déformant les rapports à la réalité. Forcément, si tu triches sur internet
en
même temps.
Je suis
l'arbitre.
En fait, Non, c'est parce que je peux vous parler de ça, parce que j'ai mon approfondissement pour les enfants qui ont des handicaps mentaux.
Et tu fais ça à quand, comment?
Ben, en fait, je suis animateur.
Ouais.
Et du coup, quand il y a un enfant que bon, les parents nous confient cette garde pour la journée, pour la semaine, c'est moi qui ai donc le comment s'explique ça
l'enfant en charge.
Voilà, l'enfant en charge.
Donc on te donne des infos.
C'est ça. Donc une semaine à l'avance, j'ai les infos donc sur l'enfant, j'ai les numéros des parents, je prends contact avec les parents. Après ça c'est une démarche personnelle.
Mm-hmm.
Je prends contact avec les parents, je parle avec eux, j'essaie de faire une rencontre avec l'enfant pour qu'il s'habitue à moi, pour que dès qu'il va arriver dans le centre, qu'il ait déjà quand, vulgairement on peut appeler ça un point de chute, un endroit où il va être rassuré.
Un point de repère.
C'est ça. Et après je vais aménager toutes les animations, tous les jeux, tout en fonction de lui, pas en fonction de sa maladie, mais son être. Je vais l'adopter en fonction de lui. Donc c'est-à-dire
que
ça peut changer en fonction de chaque enfant que je peux avoir.
Ah bah c'est cool. Bon, alors du coup, la schizophrénie, c'est plutôt que de dire qu'on a deux personnalités dans un même corps, c'est plutôt une personnalité qui est morcelée, éparpillée en plusieurs morceaux. Ça touche 1% de la population mondiale. Donc en France, ça fait environ 600 000 personnes dont les troubles débutent entre 15 et 30 ans. 15 ans, c'est pour ça qu'on en parle, parce que quand on est 15 ans, on est jeune. Entre 15 et 30, on est encore un peu jeune.
Après, est-ce qu'il n'y aurait pas, par hasard, une autre émission qu'on a fait sur les produits illicites?
Ouais.
C'est pas en cause.
Bien. Il y en a qui font des liens, mais j'adore.
Et oui.
J'adore. Bah, tout à fait. Donc, et pourquoi donc, alors? Quel est le lien?
Le cannabis, ouais. La drogue.
Et ça fait quoi?
En gros, ça grille le cerveau, du coup, ça fait que...
Des neurones. Ou des synapses, ça... c'est pas des synapses.
Non, du coup... les neurones.
Ouais, ça, les neurones, les synapses.
Et même, si vous voulez, on vous renvoie sur une autre émission, pas un instant santé, mais qu'on a fait, c'était un Noël avant l'heure, si je me trompe pas, on avait parlé de
l'autisme.
Ouais, des TED.
Alors, c'est encore un autre...
C'est pas la même chose.
Un autre trouble. Voilà, donc, tout ce qu'on peut voir dans les films de schizophrènes, qui sont des psychopathes dangereux...
C'est totalement faux.
C'est faux. Voilà. Il y a des schizophrènes qui arrivent à très bien vivre, qui arrivent à vivre avec leurs hallucinations et à savoir en fait quand est-ce qu'ils hallucinent et du coup à faire la part des choses. Voilà, il y a un film qui est très bien fait sur ça. Et j'ai perdu le titre, donc quand ça me reviendra, je vous le donnerai.
C'est vraiment
dommage. Il va me revenir.
Vous avez un peu le synopsis du film ou pas du tout?
Oui, oui, c'est... Il y a un homme dedans, ça commence. Un homme... Bref.
Merci pour le
synopsis. Donc c'est un... On voit au début donc dans une vie étudiante, un étudiant donc qui arrive dans une chambre avec son colocataire et donc on voit sa vie se dérouler. À un moment, on a l'impression que bah voilà, il a un petit peu des délires paranoïaques, que il a l'impression que on en veut à sa famille. Il a dans son entourage un ami et qui a une petite fille d'une dizaine d'années. Et il commence à se poser des questions en fait quand il se rend compte que la petite fille ne grandit pas. Donc en fait, pendant toute une partie du film, on a vu la petite fille, les interactions avec la petite fille et cet homme, et en fait on se rend compte que c'est l'hallucination, mais qu'il la faisait partie intégrante de sa vie, qu'au bout d'un moment il a réussi à s'en défaire. Il est bien fait sur ça, c'est un des premiers films où on voyait vraiment la schizophrénie autrement qu'un psychopathe avec deux personnalités, genre Mr. Jekyll et Mr. Hyde.
Oui, ça, je sais bien, bien sûr. Il y a même eu Split. Split aussi.
Ouais, très bon film. Ensuite, question suivante. Que signifie TCA? Test de corpulence actif, tourte aux champagnes appétissantes, trouble des cervicales adjacentes, trouble du comportement alimentaire.
C'est le premier.
Test de corpulence active. J'y arrive pas ce soir.
Non, le deuxième.
Ouais, le deuxième, le champagne.
Tourte au champagne appétissante.
C'est ça.
Bon, si tu m'en amènes une la prochaine fois, je veux bien.
Non, ça doit être. Vous avez dit quoi les autres?
Alors, on a dit donc test de corpulence active, la tourte au champagne, trouble des cervicales adjacentes, trouble du comportement alimentaire.
Tourte la 4.
C'est le truc alimentaire.
Trouble du comportement alimentaire. Ouais, c'est ça. Et vous limitez quoi dans le trouble du comportement alimentaire?
La boulimie.
La boulimie, l'anorexie.
C'est vraiment genre, dès qu'on a un petit problème, on se venge là-dessus, quoi.
Alors, on développera un petit peu, mais bon, l'anorexie, c'est la plus connue, c'est l'anorexie mentale qui touche les jeunes filles, ça touche aussi les garçons. et la boulimie qui est alors un peu plus complexe, voilà, une sensation de vouloir remplir un vide émotionnel par l'aliment. Donc, on se fait vomir ou on ne fait pas vomir, ça dépend. Voilà, ensuite, question suivante. Le psoriasis.
Si je sais ce que c'est.
C'est un dinosaure.
Alors, juste, même je peux vous le décrire, même pas besoin de...
Bon, bah laisse les autres répondre alors. Un dialecte parlé en Guinée équatoriale.
Tout à fait.
Une maladie de peau caractérisée par des plaques rouges. Un parasite qui provoque la varicelle. Une infection sexuellement transmissible. Psoriasis. Un dialecte parlé en Guinée.
Non, c'est
une maladie de peau avec des plaques rouges.
Non.
Toi, tu dirais quoi?
Ou une maladie sexuelle.
Le parasite qui provoque la varicelle.
Oui, c'est ça.
C'est quoi la varicelle?
Je peux.
C'est quoi la varicelle?
Normalement, c'est pas un parasite. C'est la varicelle.
Non, la varicelle, c'est un virus.
Peut-être la maladie sexuellement transmissible.
Alors, on a fait une émission IST. Est-ce que j'ai dit psoriasis dans l'émission IST?
Non.
C'est la maladie de la peau, donc qui est caractérisée par des plaques rouges.
Ouais, c'est ça. En fait,
alors, vas-y, on t'écoute.
Alors, ça, je peux en parler parce que j'ai un collègue qui... Là, d'une certaine façon. Ça se voit par des plaques rouges, un style un peu... Dans les cheveux, on peut le voir souvent, on le compare à des pellicules.
Alors on peut le confondre au début avec des pellicules, ouais.
Mais genre en fait, ça, c'est bizarre parce qu'on dirait que c'est de la peau morte. Et pardon, la peau morte, tu vois. Et ça fait, ça fait des plaques rouges. Tu vois ce que je veux dire?
Donc c'est des plaques rouges.
Comme une allergie en fait.
Alors en fait, ouais.
C'est la même chose, mais avec de la peau morte un peu.
Ouais. En fait, c'est un renouvellement de cellules qui est accéléré, donc ça provoque une inflammation des zones des certaines zones du corps. Donc notamment les cheveux, les ongles, les plis, aussi sur le dos, ce sont des zones fréquentes. Et donc c'est une inflammation qui est chronique. Donc voilà, donc ça fait des plaques rouges pour souffler avec une petite désquamation de peau. Alors c'est une maladie qui est assez fréquente, elle touche 2% de la population, ce qui est déjà pas mal. Et souvent c'est une maladie, même si elle est bénigne, qui peut constituer un handicap à vivre au quotidien parce que on a des croûtes dans les cheveux, ça peut paraître cracra. Oui, et c'est une maladie qui est énormément liée au stress et souvent psychosomatique.
Et il y a un shampoing qui est... je vous le dis, hein, il y en a des personnes qui l'ont. C'est un shampoing qu'on peut mettre et qui... Voilà, qui a...
Oui, après, en fonction du type de peau, on va voir un spécialiste et puis il nous conseillera sur les crèmes, les shampoings, les savons. Même si sur ça, je vous dirais de rester simple et basique. Justement d'éviter les machins avec...
Je ne vais pas faire de placement de produits, je dois citer encore 4 marques, donc aidez-moi s'il vous plaît.
Savon de Marseille, le fer à cheval. Voilà, restez simple. Pas de produits pourris, petit marseillais. C'est bon, on a les 4 là. Petit marseillais, c'est pas du savon de Marseille, hein. Attention au titre.
Non, c'est pas la même chose, pas déconner.
Alors, question suivante, la tricotylomanie.
On fait du tricot.
Personne qui, par anxiété, s'arrache frénétiquement les cheveux. Un super-héros du tricot. Une personne qui a la phobie des aiguilles à tricoter. Une personne dépendante à la tricotylomanie.
Moi, je propose, c'est la mamie qui nous fait des pulls qui grattent.
On n'a pas. Option ça, suivante, mamie qui fait des pulls qui grattent.
Moi, ouais. Je dis mamie qui fait des pulls qui grattent.
Mais je ne l'ai pas, désolée. Alors, une personne qui par anxiété s'arrache frénétiquement les cheveux, le super-héros du tricot, la personne qui a la phobie des aiguilles à tricoter, une personne dépendante à la tricotylomanie. Tricotylamine. Dur à dire.
Alors, vu comme il y a deux fois, ça peut pas être la dernière.
Ça peut pas être les deux du milieu non plus.
Ça peut pas être le tricot.
C'est quoi le... Moi, je crois que c'est s'arracher.
Pose-moi ce téléphone, espèce de tricheur.
C'est ma mère. S'arracher les cheveux. Big up à maman. Hein. Non,
si tu demandes à ta mère, c'est de la triche aussi.
Maman, c'est quoi?
Alors, effectivement, c'est une personne qui s'arrache frénétiquement les cheveux. Les poils, les cheveux deviennent l'objet d'une attention permanente. En les arrachant, la personne tricotylomane évacue une grande part de son anxiété. Comme un tic, quasiment impossible de se contrôler. Et puisque pour s'arrêter, il faudra traiter l'angoisse en rencontrant, par exemple, un psychologue. C'est souvent un problème qu'on rencontre chez les petits, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens de s'exprimer, et du coup, ils expriment leur angoisse en s'arrachant les cheveux. Donc, des petits qui ne savent pas encore parler, qui s'arrachent les cheveux, souvent, ils ont une grande angoisse. Et après, bah, ça traîne. C'est quand même... C'est plus rare de commencer un petit peu plus tard la trichotillomanie, mais ça existe aussi. Ensuite, question suivante. L'intestin est-il un second cerveau ?
Oui.
Oui.
Oui, parce que quoi, j'ai faim.
Ça, je le sais. Ça a été prouvé scientifiquement. Ouais. Une certaine flore intestinale pouvait provoquer, était à la base de certaines maladies mentales. Quand on a aussi des
ouais.
dans
notre
intestin. Ah oui. Bah oui, ça connecte.
On a des terminaisons nerveuses plus que des neurones.
Et
ouais. Alors en fait, on dit effectivement que l'intestin est le second cerveau du corps. Même si c'est le cerveau qui est le poste de pilotage des émotions et nous permet de décrypter le monde, donc les recherches montrent qu'il y a bien un lien entre l'intestin et les émotions. Le ventre contient 200 millions de neurones avec des neurotransmetteurs qui veillent à notre digestion et à un bon échange des informations avec notre tête. Alors là, du coup, on parle d'un cerveau entérique, celui du ventre, comme la gastro-entérite.
Super.
Cerveau entérique. Alors, donc ce cerveau entérique produirait 95% de la sérotonine totale du corps. Je ne attendais pas à celle-là.
Pas mal.
Ouais.
Carrément.
Alors, et puis, sans forcément avoir de vieilles études,
juste petit rappel,
on savait bien que quand on disait la sérotonine, c'est une hormone du plaisir.
Oui.
Entre autres. Donc, effectivement, ce que l'on mange, ce que l'on boit, a un effet sur notre humeur, en gros. Donc, et sur notre comportement, par ricochet. D'accord ? Donc des fois quand on n'a pas le moral, on arrête le sucre au final parce qu'on pensait que le sucre nous fait du bien, mais c'est le sucre qui provoquait une petite baisse de morale. Mais bon, on a des expressions là avec le ventre et les émotions.
Mal de ventre ?
Ouais, quand on a mal au ventre, on dit quoi des fois ? Je sais pas. J'ai la boule au ventre. Quand on est stressé, on a mal au ventre. Souvent on a des symptômes comme ça liés entre notre émotion et notre ventre. Vous le vivez des fois vous ou pas ?
Oui.
Quand vous êtes stressé, vous avez mal au ventre ?
Ouais.
Pas bien.
Allez, question suivante. J'ai mal au dos. Cela peut révéler A. Que je suis angoissée et que cela me pèse. B. Qu'il faut que j'arrête de faire des déménagements toutes les semaines. C. Que j'ai une scoliose et qu'il faut que je fasse une radio du dos. D. Que ma carrière de contorsionniste est compromise. Mon corps n'est pas suffisamment souple.
C'est quoi le...
Laquelle ?
C'est quoi le truc ?
J'ai mal au dos. Pourquoi ? Angoissée, déménagement, scoliose et ma carrière de contorsionniste est compromise.
Ça peut être... Non, ça peut être...
Bah, ça peut être plusieurs trucs. La scoliose...
La scoliose et le l'autre, là, il y en a un deuxième.
Déménagement,
le déménagement.
Non, 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 non.
L'angoisse. Le contorsionnisme.
L'angoisse, mais on peut...
Et le contorsionnisme ?
Bah oui,
ça dépend de. Je vais pas aller jusqu'à me péter une cheville, mais genre, quand je sais que j'ai mal, je vais arrêter.
Bon, ouais, effectivement, c'est toutes les réponses qui sont possibles. Il faut s'interroger sur ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête. Donc, on dit des fois, là, en ce moment, on entend beaucoup que le mal de dos, c'est le mal du siècle. Il y a le fait des positions, effectivement, au travail, il y a des mauvaises positions. Et on a une bonne expression là qui nous dit que c'est lié à notre angoisse et notre stress, tout ça. L'expression avec le dos. Hein ? J'en ai plein le dos.
Ouais.
J'en ai marre, j'en ai plein le dos. Ça veut dire qu'on porte trop de choses sur nous, que ça nous stresse, ça nous angoisse. Voilà. Ensuite. Qu'est-ce qu'il a ?
Il m'a sorti une expression.
Vas-y, bah vas-y, dis.
Non, c'est quoi l'expression ?
Bah si, maintenant on a envie de savoir.
Ça ne rentre pas dans les codes.
C'est pas ouais, grave, tu couperas au montage.
C'est un peu sale.
Bof, si vous saviez. Bon, allez.
Après, on peut prendre ça sous forme de on est des docteurs.
Ouais.
Je suis pas sûr que.
Oh, comme tu veux.
Vous êtes pas des docteurs. Bah vas-y.
Bah, elle m'a dit que voilà, bah, quand il a mal au ventre,
quand il est stressé,
il a pas.
Il a plus envie de faire quelque autre chose.
Ah bah là, on en revient au cerveau entérique.
Vive le cerveau entérique!
Quand on est stressé, on peut avoir la diarrhée. Et on en a plein le cul aussi.
Alors ça, oui.
Bon. Voilà. C'est bon?
À l'instant santé numéro 12, on apprend qu'on pense avec son cul.
Vous la couperez, celle-là, parce que sinon, je vais me faire gronder. Bon, allez, question suivante. Quand on dit que c'est psychosomatique, cela veut dire avoir des tics dans la tête, être perturbé par le tic-tac de l'horloge, avoir des symptômes physiques du corps liés à nos émotions.
Avoir quoi?
Avoir des tics dans la tête, être perturbé par le tic-tac de l'horloge.
Psychosomatique.
Ah, psychosomatique.
Qu'est-ce que ça veut dire, psychosomatique? Oula.
Psychosomatique.
En plus, je l'ai dit tout à l'heure.
Avoir des tics.
Du coup, vous revenez tous tout à l'heure et vous, voilà, vous aurez la réponse.
Écoutez voilà. L'émission, vous revenez, vous la remontez. Alors, bon, dites quelque chose, du coup.
Moi, j'ai dit avoir des tics.
Des tics.
Quand ça a des effets sur le corps.
Quand ça a des effets sur le corps. Bah ouais, c'est avoir des symptômes physiques liés à nos émotions. Donc on avait dit que le psoriasis, ça pouvait être psychosomatique, par exemple. Donc, par exemple, après avoir consulté plusieurs médecins, fait des tests, des examens, on ne trouve aucune cause physique. Par exemple, à notre fichu mal de dos, vu qu'on en avait plein de dos, ou à nos maux de ventre parce qu'on a un cerveau entérique, à notre eczéma, notre psoriasis. Donc on pense qu'il s'agit d'un trouble qui lie le corps et la tête. Ça ne veut pas dire que... on est fou, ça veut pas dire qu'on n'a pas vraiment mal, ça veut dire qu'il faut trouver la cause du problème et pour pouvoir après traiter les conséquences. On pourra mettre toutes les crèmes qu'on veut sur un eczéma, si on sait pas pourquoi l'eczéma y vient, l'eczéma reviendra toujours. Hop, allez, est-ce que j'en ai encore une? Non, bon, c'était pas mal le quiz là,
oui.
Vous êtes pas trop
non,
mauvais.
Moi, franchement, non, j'ai bien aimé. Hein, c'est sympathique.
Non, mais on sent qu'il y en a qui font des liens, ça me fait plaisir. Qui retiennent ce qu'on dit depuis plus d'un an.
Toujours,
c'est cool.
On est là, on vous écoute tout le temps.
Bon, du coup, c'est quoi la psychiatrie pour vous?
C'est un problème de cerveau.
Alors, la psychiatrie.
C'est l'étude du comportement.
Ouais.
Par rapport au cerveau. C'est déjà mieux.
Vous avez vu, madame,
ce qui touche à la santé mentale.
Ce qui touche à la santé mentale, ouais. Et est-ce que vous pensez que la psychiatrie, donc, c'est une partie de la médecine, hein, donc c'est une discipline,
ouais.
Comme la pédiatrie, ou comme l'ophtalmologie, on a la psychiatrie. Est-ce que vous pensez que c'est une discipline de la médecine qui est plutôt jeune ou plutôt vieille par rapport aux autres?
Je pense qu'elle est très très jeune, enfin, par rapport à l'échelle de la médecine en général.
Par rapport aux autres, et vous?
Oui, moi j'irais plutôt vers le... entre début et première guerre mondiale, je pense. Les recherches sont...
moi, je
pense
alors,
que
peut-être
après, moi,
pas autant, non. Alors, c'est une discipline qui est assez jeune par rapport à toutes les disciplines médicales. On s'intéresse quand même à la médecine depuis très 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 longtemps.
Ah oui, hein.
Donc ça a environ 200 ans. Mais c'était assez vague. 200 ans, on parlait de fous. On avait
posséder.
Un traitement... assez basique des choses, hein, camisole, isolement. Ouais.
Oui, mais après,
et après, il y a une évolution.
Science
ouais.
Qu'on a maintenant, je pense que c'est plutôt depuis vers le début, seconde première guerre mondiale qu'on a.
Alors, qui c'est qui aurait pu nous aider à, on va dire, à populariser la psychiatrie?
Jeanne d'Arc. Non, je déconne.
Qui ça?
Jeanne d'Arc.
C'est, elle est trop vieille là, du coup.
Non, moi, je vous dis en fait.
20e siècle.
Non, mais elle avait des AirPods en fait.
C'est grâce à elle qu'on a les rayons X, ouais, du radium. Un nom hyper connu là, qui a étudié les enfants. Moi, par un F.
Ouais.
Florian? Moi?
Freud, éventuellement, ça vous parle?
Oui.
Freud. Ah oui, oui.
C'est grâce à lui qu'il va y avoir un grand tournant sur la prise en charge des maladies mentales et des malades mentaux. Donc, on leur donne la possibilité de s'exprimer, d'exprimer leurs souffrances psychiques sans les juger. Ensuite, il va y avoir l'apparition des médicaments, donc des psychotropes neuroleptiques au milieu du XXe siècle, où là, on a pu du coup avoir une vraie avancée dans le traitement de ces malades. Et donc maintenant, voilà, on a de la psychiatrie actuelle qui mêle les médicaments et les psychothérapies. Donc voilà, la psychiatrie, voilà, c'est pas des fous, c'est pas des belles femmes hystériques qu'on enferme. D'ailleurs, vous savez d'où ça vient le mot hystérie ? Petit instant culture. Non, pas du tout, mais on a hâte de le savoir. Hystérie, alors, étaient hystériques uniquement les femmes avant.
Oui,
pourquoi ?
Je crois que je me rappelle de ça. Mais
ça vous fait penser à quoi, hystérie ? Ah ! Utérus. On estimait que les femmes étaient hystériques à cause de leur utérus, notamment les femmes qui n'avaient pas de rapport sexuel. Donc ça leur montait au cerveau. Donc les grandes crises d'hystérie étaient liées, on pensait, à l'utérus. Bon, bref. Au niveau des dépendances, des addictions et des toxicomanies, petite devinette. Quel est le nom commun entre une fille qui passe la nuit devant son ordinateur à regarder la dernière série en vogue, un gars qui n'arrive pas à décrocher son
addiction.
Roman de science-fiction. J'ai même pas le temps de finir. Alors, ouais, bon, ils sont tous accros. Donc, effectivement, en même temps, j'ai dit dépendance, addiction avant. Donc, tu aurais pu me laisser finir ma devinette.
Gros, Pierre, hein, franchement.
Parce que, bon, il y a le fumeur invétéré, l'amoureuse qui l'est tellement que de toute la journée, elle ne pense qu'à l'élu de son cœur, le mangeur de chocolat qui connaît toutes les chocolateries. Tout ça, ce sont des addictions. On peut être accro à des produits illicites et accro à des produits licites. Faut que je fasse une pause. Deux secondes.
Petit carré en bas. Du coup,
ils sont tous accros. Donc, de la dépendance, le fait de ne pas pouvoir se passer d'une substance ou d'un comportement. En psychiatrie, donc, on parle de dépendance à l'alcool, au tabac, aux médicaments, aux drogues, donc cannabis, cocaïne, héroïne, et à des comportements, donc des jeux qui deviennent pathologiques, ne pas pouvoir se passer de jouer à la console, à son téléphone, ce genre de choses. On y met aussi les comportements sexuels addictifs, les troubles de la conduite alimentaire, l'anorexie, la boulimie et l'automutilation. Ensuite, la psychopathie. Qu'est-ce que c'est qu'être psychopathe ? On entend souvent ah lui machin c'est un psychopathe, ça veut dire quoi?
Je pense qu'un psychopathe c'est une personne qui va être bloquée au niveau de son cerveau et qui va répéter sans cesse la même chose en boucle. Et si on lui...
Non, mais c'est
un personnage gamer.
Non.
Et si on lui bouge ou on lui rajoute quelque chose à son action qui fait en boucle, et il pourrait mal réagir.
Ça peut. Est-ce que c'est fréquent, les psychopathes?
Non.
Oui.
Par rapport à la schizophrénie, par exemple. Alors, est-ce que nous sommes tous des psychopathes ? Non.
Merci pour cette ambiance glauque.
Non. La psychopathie est une maladie très rare, en fait.
On utilise psychopathe pour tout et...
Alors oui, maintenant, voilà, on a tendance à dire comme tout. Ça, voilà. C'est un psychopathe.
Je pense que
de... Ouais. C'est devenu voilà, une... dans le langage quotidien. Alors c'est quoi qui est un peu dingue, irrespectueux. Plutôt irrespectueux des règles, à qui rien ne fait peur, ce genre de choses. Vous dites aussi pour un psychopathe qui est trop carré, manque d'empathie, ce genre de choses. Alors en fait, le psychopathe est toujours dans la recherche du plaisir immédiat. Donc dans le « je veux, je prends » de manière immédiate, avec des passages à l'acte et caractéristiques qui peuvent s'exprimer de manière différente, dont des coups, des violences, des tentatives de suicide. Il vit dans l'agir perpétuel pour résoudre les conflits, donc au niveau de la parole ou de l'acte. Il peut être aussi dans la recherche de la souffrance de l'autre. Donc on a des psychopathes qui sont impulsifs, avec une humeur oscillante entre l'euphorie et la tristesse. Une personne hyper émotive et souvent immature. Donc dans la vie quotidienne, il aura des difficultés scolaires importantes, pourra connaître des exclusions, des problèmes avec la justice, des problèmes de relations avec sa famille, ses amis... et en plus, c'est la porte ouverte à d'autres pathologies, dont la consommation abusive de produits addictifs. Illégal ou légal, mais voilà, alcool et ce genre de choses. Ouais, donc effectivement, quand on dit des choses, bah, voilà, ça n'a pas forcément le sens premier qu'on y met. Les troubles anxieux.
Ça, c'est beaucoup plus fréquent, ça.
C'est beaucoup plus fréquent.
Beaucoup trop, même, je dirais.
Alors, beaucoup trop. C'est normal d'être fréquemment anxieux. Donc, voilà, on a les boules parce qu'on a un examen, c'est l'angoisse. Dans la vie, tout le monde a un moment éprouvé ce genre d'inquiétude qui se manifeste. Bah, alors, comment ? Comment vous êtes-vous quand vous êtes anxieux ?
Mais l'anxiété, c'est, on va dire, une espèce de crise de panique interne. C'est...
Alors, ça va pas jusqu'à la panique.
Ah, quand je dis une crise de panique interne, c'est pas quelque chose qui se manifeste de manière physique, mais on va dire plus...
Alors, il y a de la manifestation physique quand on est stressé en queue. Donc, des palpitations, des maux de tête, on a mal au ventre, on a dit par exemple. On peut transpirer, on peut avoir des difficultés d'attention, on peut avoir mal à la tête.
Une grosse baisse de morale.
Ouais. Alors, la grosse baisse de morale, c'est plutôt après cette petite période d'anxiété. C'est un mécanisme d'adaptation naturelle qui permet à l'individu de répondre à des difficultés. Donc quand on a une petite crise d'angoisse, quand on est anxieux, c'est que bah, voilà, on se prépare à un examen, on se prépare à affronter quelque chose. Donc quand on va bien, cette anxiété disparaît. Quand on a des troubles anxieux qui persistent, qu'on en a trop souvent et que ça gêne notre vie quotidienne, bah, là ça devient un problème et il faut en parler. Dans les troubles anxieux, on peut avoir des phobies. Vous en avez des phobies, là ? Pas forcément vous, mais à l'esprit.
Des araignées...
Ouais, c'est quoi la...
Du vide, arachnophobie.
Arachnophobe, on a claustrophobe.
Alors, claustrophobe, c'est quoi ?
Être enfermé dans une petite pièce.
Alors, c'est pas forcément qu'une petite pièce. Ça peut être la sensation...
En fait. La sensation...
C'est sensation d'être enfermé, donc... Ça peut être dans un ascenseur, mais ça peut aussi être à l'extérieur quand...
Dans une foule.
Alors, il y a l'agoraphobie pour la foule, mais quand on n'a pas l'impression d'avoir d'issue de secours. Donc, en cas de danger, on n'a pas de secours. Qu'est-ce qu'il y a encore comme phobie ?
Le vide.
Ouais, la peur du vide. Le vertige. Alors, c'est plus une peur que la phobie. Bon, l'agoraphobie, donc c'est la peur des foules ou des lieux publics. On a le trouble obsessionnel compulsif. Ouais. Donc, comme toc, on peut faire quoi, par exemple ?
On met la porte 3 fois.
Vérifier 3 fois qu'on ferme la porte, laver les mains 25 fois, se sentir obligé de faire certaines actions. Mettre d'abord sa chaussure gauche et après sa chaussure droite, sinon on a l'impression que tout va de travers dans la journée. Ce genre de choses. Il y a le trouble panique, donc qui est un petit peu plus que l'anxiété, donc qui se sent menacé par un danger qui n'existe pas, mais qui provoque des difficultés respiratoires, des tremblements, des serrements de poitrine, une impression, une peur de mourir. Et les phobies spécifiques, comme par exemple, on l'a dit, la peur des araignées, la phobie scolaire, ce genre de choses. Donc ça, c'est un problème de communication entre les cellules du cerveau. L'équilibre est perturbé. L'origine est encore inconnue, mais par des thérapies, on peut arriver à les vaincre. Ensuite, un truc que vous dites souvent entre « c'est un psychopathe », il y a un autre truc que vous dites souvent, c'est un gros mytho.
Oui. La mythomanie.
La mythomanie. C'est quoi la mythomanie ?
Inventer des choses.
Inventer des choses. Et pourquoi faire ?
Pour se valoriser, souvent.
Pour se valoriser ?
Je pense.
Non. Pas forcément. C'est vraiment une tendance pathologique à recourir au mensonge sans en avoir conscience. Alors, ça peut être parce que, de manière inconsciente, on comble un vide. On ne peut pas s'empêcher de mentir. Voilà. Ça vient du latin, au passage. Mania. Mythomania.
Et c'est beaucoup répandu.
Alors, la mythomanie... Bon, là, je ne l'ai pas, tiens. Alors, c'est quand même beaucoup moins répandu que ce qu'on pense. Hein. Pareil, c'est quand même un petit peu la psychopathie, on le dit beaucoup. Mais un vrai diagnostic de mythomanie, alors, il y en a un petit peu plus que les psychopathes, mais c'est pas non plus
c'est
beaucoup.
C'est pas fou, quoi.
1 à 2% peut-être. Voilà. En plus, comme les mensonges ne sont pas intentionnels et n'ont pas pour objectif de tromper l'autre, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous mentir pour arriver à ses fins, ce n'est pas de la mythomanie. Okay. Alors que quelqu'un qui va vous raconter des bobards tout le temps, mais qui s'embrouille au final et ne sait plus, et puis voilà, il n'y a pas de fin pour lui, véritablement, Bon, ça rentre plus dans le côté mythomanie. Il y a quatre types de mythomanie, si ça vous intéresse.
Allez-y, ça peut toujours servir.
La vaniteuse, donc la personne qui se vante. L'errante, la personne qui ne cesse de fuir. La maligne, donc la personne qui compense un complexe d'infériorité par des médisances. Et la perverse, donc qui fabule pour escroquer. Mais tout ça, ça s'en rend compte.
Non,
c'est complexe, hein. T'en es pas complètement conscient.
J'en connais ça, bon. lui, toute catégorie.
Allez, un autre truc que vous dites souvent aussi.
On en dit beaucoup de
non.
choses.
Il est mytho, c'est un gros psycho, il est parano.
Ah, la paranoïa.
C'est quoi la paranoïa?
C'est un titre de Jules.
Non, voilà, non, je vais pas descendre aussi bas. Alors non, la parano, c'est la sensation que tout le monde, que tout ce qui se passe autour de vous est contre vous. En gros. Il interprétera tout ce que vous dites ou tout ce qui se passe autour de telle sorte qu'il aura l'impression que c'est contre lui. Voilà. C'est comme ça. Ça fait partie des psychoses.
C'est de combler le vent, en fait.
Ouais.
Le petit blanc, genre en mode...
C'est
tout compris.
Ça fait partie des psychoses, la paranoïa. Donc, pareil, quand il y en a un qui dit qu'il a l'impression une ou deux fois qu'on se moque de lui ou que voilà, on lui montre du doigt...
On dit « je mange des chips », c'est le mec qui est propre lui.
Oh, y aller, c'est quoi. Pas la même chose.
Je suis gros, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Alors...
Parce que je suis noir, c'est ça.
On va arrêter un petit peu. Donc là, on a fait un petit tour, voilà, un petit rappel grosso modo de ce que c'était la psychiatrie et certains troubles psychiatriques. Donc pourquoi, quand on est jeune, on a plus de risques d'avoir des troubles psychiatriques ? Parce qu'on change. Et donc, la prochaine fois, on attaquera avec le complexe du homard.
Le complexe du homard ?
Ouais. Et interdiction d'aller tricher.
Ah non !
Le complexe du homard.
Ou alors, si vous trichez, vous le connaissez sur le bout des doigts, le complexe du homard.
Alors, le complexe du homard, je crois que ça va être...
Le complexe du crustacé.
Non, mais je crois qu'il y a un truc avec... je sais pas, c'est pas un truc avec une richesse ou un truc comme ça.
Ah ah ah, non. Suspense.
Ok, non. Okay,
voilà.
Google,
on attaquera
que
avec le complexe du homard.
Qu'est-ce que le complexe du homard?
Et comme ça, vous ferez les liens
le
avec vous.
Et en sommaire, appelé crustacé.
Et qui a la particularité de...
Manger les cadavres des gens, des autres poissons.
Pas celui-là.
Crier quand il est dans l'eau.
Bah si on t'est bouillante, tu cries aussi. Oui. Eh ben voilà, je vous laisse réfléchir.
C'est fait comme ça en fait.
À la prochaine.
C'est génial le homard.
Hein ? C'est très bon le homard.
Moi,
ouais, moi voilà. J'aime beaucoup.
Surtout la dernière photo d'un de nos élus en haut. Une petite photo avec des homards. Il a pas trop aimé après. mais voilà, on parle pas de politique.
Interdit, monsieur.
Et en plus, ministre de l'écologie. Hein.
Je vous arrête.
Le mec ministre de l'écologie, 4 homards devant lui, quoi. C'était pas joli, joli. Hein. Bon.
Je me retiendrai de faire toute réflexion.
Bref, voilà, on va chercher qu'est-ce que.
Méditer sur ce
complexe
homard.
Du
et pas homard qui m'a tué. Hein.
Du homard.
Oh bon, pardon.
Pardon, donc.
Coupez-le au montage.
Ça faisait longtemps, mais pour la peine, on va le laisser. On va... Ça va devenir ma sonnerie de téléphone.
Ah.
Donc, du coup, merci beaucoup d'être venu, madame.
De rien, à bientôt.
À bientôt.
Bientôt.
Merci, mon ingé.
De rien.
Check-moi ça, mon ingé.
Ouais, ouais.
On est là.
Check-moi de loin.
Check-moi de loin. Voilà. Donc, et merci à Chang. Voilà.
Ah, de rien.
Toujours, là,
toujours
présent.
Un plaisir,
voilà.
Là.
Donc, prochaine instant santé, on va parler de homard et de complexe de homard. Voilà, donc je ne sais point ce que c'est. Et merci beaucoup d'être venu sur Antithèse Radio. N'oubliez pas, restez sur Antithèse Radio. Et Insta, tout, voilà, n'oubliez
le
pas.
Le site, si vous voulez voir les podcasts.
Voilà, donc merci beaucoup.
Et
à bientôt.
À bientôt.
Top, c'est fini.